Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité, comme la semaine dernière, sera Jacques Généreux, qui a écrit le manuel critique du Parfait européen avec comme sous-titre « Les bonnes raisons de dire non à la Constitution ». Alors je rappelle que cette émission s'inscrit dans une série qui a commencé la semaine dernière pour le non au traité constitutionnel. Pourquoi le non? Parce qu'on entend beaucoup de oui par ailleurs, donc ça peut être sympathique d'écouter les raisons du non. La deuxième émission avec Jacques Généreux porte plus spécifiquement justement sur le traité lui-même, sur les raisons de voter oui ou sur les raisons de voter non, de façon plus spécifique, en parlant plus spécifiquement d'extraits particuliers du traité constitutionnel. Jacques Généreux, je le rappelle, est professeur à Sciences Po et membre du Conseil national du Parti Socialiste, dans l'aile gauche du Parti Socialiste, c'est-à-dire Nouveau Monde. Il est très très bavard, donc je vais lui laisser la parole tout de suite.
Quelque chose que je n'ai pas compris. Si j'ai bien suivi ce que vous disiez, l'union politique, c'est finalement faire le choix d'un modèle social qui serait original, propre à l'Europe. Est-ce que les autres socialistes, c'est-à-dire plutôt ceux qui disent oui, sont absolument aveugles et ne voient pas que la construction européenne jusqu'à présent a amené à ce que vous disiez tout à l'heure, ou je n'arrive pas d'ailleurs à comprendre, ou je ne sais pas.
C'est certain que, vu de l'extérieur, ça doit paraître incompréhensible. Car on peut se demander comment des socialistes disent oui à un traité qui interdit, dans son article 3.210, l'harmonisation des politiques sociales par le haut. Un traité qui, dans ce même article, interdit la mise en place de prescriptions minimales en matière de salaire. Donc, il interdit l'idée qu'on demande à chaque pays, au moins, de mettre chez lui en place un salaire minimum. Un traité qui dit qu'en matière de libéralisation des services, article 148, qui est l'objet de la directive Bolkestein en cours de discussion, quand une loi cadre prévoit la libéralisation des services, les gouvernements s'engagent à libérer les services au-delà de ce qui est prévu dans la loi cadre européenne, et la Commission donne des recommandations en ce sens. Un traité qui, dans son article 3, pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, dit que dans les objectifs de l'Union, l'Union offre un espace ouvert où la concurrence est libre et non faussée, donc fait de la concurrence libre et non faussée une fin en soi, un objectif en soi. Bref, comment les socialistes peuvent dire oui un traité qui représente effectivement à peu près l'envers du modèle qu'ils présentent, l'envers du modèle qu'ils ont défendu, notamment en France, dans leur programme pour les élections européennes pour l'Europe sociale, programme qui introduisait un certain nombre d'exigences vis-à-vis du traité constitutionnel, qui demandait que les sujets de la fiscalité ou de l'harmonisation sociale puissent être décidés à la majorité qualifiée, qui demandait qu'on puisse mettre en place un salaire minimum européen, qui demandait une procédure de révision autrement qu'à l'unanimité, bref, qui demandait beaucoup de choses, toutes choses qui sont interdites par le traité. Donc je comprends votre surprise, parce que on peut se demander, mais pourquoi des gens vous disent au mois de juin, pendant les élections européennes, nous voulons cette Europe-là, et quelques mois après, vous disent il faut dire oui à un traité qui interdit tout ce que vous avez présenté comme étant des exigences pour construire une Europe sociale. Je comprends que ça paraisse incompréhensible. En même temps, je veux dire, il est rassurant de voir que un peu moins de la moitié, simplement dans le résultat des urnes, des militants socialistes sont quand même là pour dire non, nous, on a bien compris que c'est totalement incompatible avec les engagements qu'on a pris devant les Français, avec la conception que nous avons de l'Europe sociale. Cela dit, est-ce à dire que ceux qui sont partisans du oui dans ce parti sont idiots, ne comprennent pas, voire sont favorables à cette Europe ultralibérale? Non, certainement pas. Et heureusement, ça n'est absolument pas le sens. On ne peut pas confondre le oui socialiste avec le oui de la droite ou un oui libéral sur le fond. Les camarades et les militants qui sont favorables au oui, en général reconnaissent, en tout cas en privé ou dans le débat interne au Parti socialiste, reconnaissent toutes les limites et toutes les difficultés, voire toutes les horreurs qu'il y a dans ce traité, notamment sur le plan social. Mais leur point de vue est plutôt stratégique, consiste à penser que si nous disons oui à ce traité, ça n'aggravera pas tellement les choses, en quelque sorte, par rapport à la situation actuelle. Nous avons déjà, dans le cadre du traité de Nice, une Europe très libérale, trop libérale. Et que si nous disons non, nous restons dans le cadre du traité de Nice, où la plupart des méfaits du libéralisme sont déjà inscrits. Donc nous ne gagnons pas grand-chose. En revanche, en disant non, nous perdons un certain nombre d'avancées dans le fonctionnement des institutions, dont, c'est vrai, l'efficacité est améliorée par ce nouveau traité. Donc ils disent, autant prendre les quelques avancées qu'il y a dans ce traité, puisque finalement nous ne perdons pas grand-chose de plus en disant oui à celui-là par rapport à la situation actuelle. Et ils pensent que dire non créerait un malaise, voire une crise politique en Europe, et notamment dans la social-démocratie européenne, parce que les autres partis socialistes sociaux-démocrates, au niveau de leur direction, parce que personne n'a consulté les militants, sont favorables à ce traité. Donc ils disent, plutôt que de nous isoler des autres partis socialistes et sociaux-démocrates, il vaut mieux dire oui, parce qu'en disant oui, oui, on reste dans le jeu, on peut renégocier. Et donc une fois qu'on aura dit oui, qu'on aura été donc très très gentil, on pourra après reprendre le travail de négociation pour dire il y a des choses qui ne vont pas, il faut reprendre. Bon. Donc ils sont dans cette logique du consensus, il faut pas faire de clash, hein, il faut pas dire non aux choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Oui, c'est un point de vue stratégique. Bon, c'est pas une divergence de fond quant au modèle européen. Nous avons le même modèle européen, partisans du non et partisans du oui au Parti socialiste, nous avons le même modèle européen en tête. Simplement, il y en a qui croient qu'on le fait avançant en disant oui à tout et en essayant de discuter avec des gens, mais qui ne veulent plus discuter de rien puisqu'ils ont tout obtenu. Et puis ceux qui, comme moi et d'autres évidemment au Parti socialiste, pensent que le meilleur moyen d'obtenir une renégociation, c'est de commencer par dire ce qu'on ne veut pas et commencer par dire que ce traité en l'état, on n'en veut pas.
Finalement, vos petits camarades socialistes pensent qu'il y a des avancées et pas de recul. Donc, c'est finalement, je peux me dire très très bien, je vais voter oui à ce traité. Quelques avancées, notamment du point de vue démocratique. Pas de recul, c'est pas pire. Il paraît que la partie 3, c'est finalement des traités qui avaient déjà été signés. Donc, je vois pas pourquoi je vais voter non. Moi, par exemple, je pense que je vais voter oui.
Alors d'abord, je l'ai montré tout à l'heure, c'est faux qu'il n'y a pas de recul libéral. Puisque dans aucun traité, jusqu'ici, la concurrence libre et non faussée n'était un objectif, ça a toujours été un instrument. Donc, tant que c'est un instrument, on peut se poser la question, et le juge européen peut se poser la question, est-ce que cet instrument a permis d'atteindre un niveau d'emploi élevé, a permis d'atteindre un niveau de protection sociale élevé, le développement durable, bref, tout ce qu'il y a dans les objectifs. Mais maintenant que c'est dans les objectifs, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus se demander si la concurrence libre et non faussée permet d'atteindre les objectifs de l'Union, puisque c'est un objectif de l'Union, un objectif fondamental. Ça, c'est un recul colossal, bien évidemment, dans le sens du libéralisme.
La concurrence libre et non faussée, ça veut dire le libre-échange ou c'est différent ?
Ah, ça vient s'ajouter. Alors, concurrence libre et non faussée, c'est le principe général de fonctionnement de tous les marchés à l'intérieur de l'Union. À cela vient s'ajouter le libre-échange international, qui est la libre circulation internationale des biens, des personnes, des capitaux, etc. Donc voilà pour les reculs. Il y a un vrai recul libéral. Avancée démocratique, avancée sociale, c'est d'une foutaise. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? La démocratie, c'est pas d'avoir, comme on l'a fait là, juste simplement un parlement qui devient co-législateur avec les gouvernements. C'est bien qu'il soit co-législateur, d'accord ? Mais un parlement qui n'a aucune initiative des lois, qui peut faire aucune proposition, à quoi ça sert d'aller voter, d'envoyer des députés qui ne peuvent appliquer aucun programme, qui ne peuvent même pas faire de proposition de loi ? Donc le pouvoir reste exercé par la commission qui a l'initiative et par les gouvernements qui négocient entre eux. Le parlement peut juste imposer son veto, amender si les gouvernements et la commission le veulent bien. Donc ça n'est pas des institutions démocratiques. Et surtout, même si le Parlement était vraiment législateur, avait l'initiative des lois, même si quand vous envoyez une majorité de gauche ou de droite au Parlement européen, ça implique un gouvernement ou une commission de droite, de gauche, qui est censée appliquer le programme de Parlement. Même si on avait des institutions, je dirais à la limite, qui fonctionneraient comme dans une démocratie nationale. Mais ce ne serait pas démocratique. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de ce traité, ce gouvernement, qui reflèterait parfaitement les élections, n'aurait pas le droit de mener les politiques qu'il souhaite, et en tout cas, il n'aurait pas le droit de mener des politiques progressistes, des politiques sociales de gauche, parce que seules sont autorisées dans ce traité des politiques qui respectent la concurrence libre et non faussée. Donc, il faut bien comprendre l'arnaque qui est derrière cette affaire. On nous dit qu'on a fait une constitution et qu'enfin ça représente une grande avancée historique parce que ça permet de mettre plus de politique dans l'Union. En réalité, on n'a pas ça. Dans une constitution, vous n'auriez que les règles du jeu politique. Vous n'auriez pas la définition précise de l'orientation des politiques. Les politiques pourraient être de droite, de gauche, comme c'est le cas en France, dans n'importe quelle démocratie. Or ici, on a un objet juridique tout à fait particulier, c'est que dans une soi-disant constitution, on définit non seulement les principes et les règles du jeu politique, mais on définit à l'avance l'orientation précise des programmes politiques. Toute politique qui est une politique qui vise à introduire plus de régulation des marchés pour faire plus de social sont explicitement interdites par ce traité. Donc c'est une constitution de droite. C'est une constitution qui n'accepte que des politiques libérales. Donc qui instaure en quelque sorte une dictature définitive des politiques libérales. Les gouvernements ont le droit de faire ce qu'ils veulent à une seule condition, c'est qu'ils ne fassent que des politiques et fassent plus de concurrence. C'est ça la grande avancée démocratique. Avancée sociale, d'un mot, on nous dit qu'il y a une avancée sociale magnifique parce qu'il y a la charte des droits fondamentaux qui avait été discutée à Nice en 2000 et qui est enfin introduite dans cette constitution. Cette charte des droits fondamentaux n'introduit aucun droit nouveau que nous n'ayons déjà, et quand bien même ce serait le cas, elle ne s'applique en aucun cas au droit national. C'est écrit dans la charte elle-même, dans les articles 111 et 112, qui précisent l'application de cette charte. Il dit expressément, cette charte ne s'applique qu'aux actes de l'Union, ne peut en aucun cas s'appliquer aux actes de droit national. Comme le droit social, le droit du travail relève de la compétence nationale, on a donc une belle charte qui nous dit, on définit les droits fondamentaux, notamment pour les travailleurs, dans les droits sociaux, mais qui ne donne à l'Union aucun pouvoir, aucune compétence supplémentaire pour imposer quoi que ce soit au droit national. Donc ces droits ne servent strictement à rien, ils sont là pour la galerie. Et même là-dedans, il y a des reculs, hein, même dans ces droits qui ne servent à rien, puisque par exemple, on ne reconnaît pas le droit au logement, et le droit au travail, qui était reconnu précédemment, dans des textes précédents, a été remplacé par le droit de travailler. Donc c'est un scandale, il n'y a aucune avancée sociale, aucune avancée démocratique.
Il y a un petit quelque chose que je ne comprends pas là aussi. Concurrence libre et non faussée, ça c'est vraiment une valeur absolue de cette Constitution. Je vois pas de problème. Concurrence libre, pourquoi pas. Et puis non faussée, c'est très bien. J'ai même rencontré un socialiste récemment de mes invités qui me disait que j'espérais tout de même bien que la concurrence soit libre et que j'espérais tout de même bien qu'elle soit non faussée. Je vois pas de problème. Tout est bien, non ?
Ben c'est parce que les gens ne comprennent pas le sens des mots. Concurrence non faussée. Alors, mettons dans le secteur des biens privés, strictement privés et marchands. Pourquoi pas concurrence non faussée ? C'est l'idée que la concurrence doit être loyale. Mais vous voyez que si on appliquait alors vraiment cette concurrence non faussée de manière intelligente et honnête pour que ce soit bien, il faudrait que la concurrence ne soit faussée par rien. C'est-à-dire qu'à la fois, elle ne soit pas éventuellement faussée par des aides publiques qui iraient plutôt à tel ou tel secteur, telle ou telle entreprise, mais en même temps, il faudrait qu'elle ne soit pas faussée entre pays européens par le fait qu'ici ou là, on maltraite les travailleurs, qu'on les paye moins, que leur système de protection sociale est plus faible. Donc, on a une grande hypocrisie quand on nous dit qu'on défend la concurrence non faussée comme un principe simplement de loyauté de la compétition, parce que la loyauté de la compétition n'est autorisée que dans un sens, que pour interdire des aides publiques, que pour interdire justement qu'au nom d'objectifs politiques ou publics, on favorise tel ou tel secteur, mais il n'est absolument pas interdit de fausser la concurrence en faisant de la concurrence fiscale, de la concurrence sociale, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec la bonne concurrence économique, qui est la concurrence sur la qualité des produits, la qualité des services rendus. On se fait de la concurrence sur le dos de la santé, des conditions de travail des individus et des personnes. Ça, c'est de la concurrence faussée. Donc, grande hypocrisie. La concurrence est totalement faussée avec le dumping fiscal et social, mais ça n'est pas interdit. Le traité l'autorise. Il interdit, évidemment, tout ce qui fausserait la concurrence si c'est dans le sens du bien public. Alors, justement, considérons autre chose que les simples biens privés marchands. Comment voulez-vous avoir des biens publics, simplement une loi, ou que la politique existe, sans concurrence faussée ? Par définition, le fait d'avoir des hôpitaux publics, ça fausse la concurrence. Parce que les hôpitaux publics ont de l'argent public, ils sont avantagés par rapport à des cliniques privées. Par définition, avoir une éducation publique, ça fausse la concurrence. Les lycées publics, ils sont avantagés par rapport aux écoles privées, puisqu'ils ont accès plus facilement à des financements publics. Par définition, la politique, ça fausse la concurrence. Pourquoi ? Parce que la politique, par définition, ça intervient dans tous les domaines où la libre concurrence, la libre entente, la libre négociation, le libre contrat entre les individus ne permet pas d'atteindre les finalités que la société juge dignes d'être poursuivies. À chaque fois qu'on dit, là, si on laisse faire simplement le jeu de la concurrence et des contrats, ça marche pas, c'est pas bien, parce que c'est pas juste, parce que c'est pas bon, parce que c'est pas assez efficace. Et donc, on dit, il faut que le politique intervienne. Donc, le politique, ça existe par définition pour fausser la concurrence et pour rendre la concurrence moins libre que s'il n'y avait pas de politique.
Un des arguments de ceux qui prônent le non est de dire que cette constitution ne peut pas être révisée. Évidemment, ceux qui prônent le oui disent « mais si, il n'y a aucun problème, alors ?»
Eh bien, évidemment, la révision de la Constitution est prévue à la fin, dans les articles, si ma mémoire est bonne, 442 à 444 de la Constitution. Mais c'est une révision qui ne peut se faire qu'à l'unanimité, voire à la triple unanimité d'une convention qui élabore par consensus un projet, puis des gouvernements qui doivent accepter à l'unanimité ce projet, et enfin par ratification dans tous les pays. Donc l'unanimité à 25, et puis bientôt à 27, quand on aura intégré la Roumanie, la Bulgarie, puis un jour à 30, 35... Bien évidemment, on voit bien que c'est donner un droit de veto à n'importe quel État sur n'importe quelle transformation des institutions qui serait désirée par l'immense majorité des citoyens et des États européens. C'est aberrant. Aucune constitution dans le monde n'est révisable qu'à l'unanimité. Et donc on voit bien la nature de l'arnaque, encore une fois. Il ne s'agit que d'un traité diplomatique international qui réunit des États et qui ne peut être modifié que si chacun de ces États est d'accord. Qu'on n'aille pas nous faire croire que c'est enfin la constitution politique, etc. Si c'était une vraie constitution pour l'Europe, ça voudrait dire que tous les États qui ont signé ça et qui acceptent pas ça, acceptent aussi que désormais, on puisse, à une majorité qualifiée, voire une majorité très qualifiée, de 70-75%, modifier des règles du jeu sans qu'aucun État puisse imposer son veto à la volonté de l'immense majorité. Donc nous restons bien dans ce cadre d'un truc qui, de fait, sera non révisable. C'est pour ça que dire oui a une vraie conséquence. Car si on veut rediscuter quoi que ce soit dans ce traité sur les questions fondamentales, le seul moyen de l'obtenir, c'est de dire non. Car si on dit oui, n'importe quel État, le plus petit, Malte ou Chypre, pourra opposer son veto à la moindre discussion sur une révision. On pourra dire non, il n'en est pas question. N'importe quel paradis fiscal dans l'Union européenne, et nous en avons, pour dire il n'est pas question qu'on rediscute de la question de l'harmonisation des fiscalités en Europe. Et pour des décennies, nous ne pourrons rien changer sur les questions fondamentales. Et donc ça, c'est une raison essentielle, ne serait-ce que pour simplement des démocrates qui comprennent qu'on ne peut pas infliger pour les 3 ou 4 décennies qui viennent aux générations futures ce qui est le résultat d'un compromis politique à un moment donné. C'est pas le compromis politique des gouvernements de 2005 qui doit s'imposer définitivement pendant 40 ans à toutes les générations qui viennent. C'est inacceptable qu'on soit de droite, de gauche, libéral ou socialiste, simplement au nom du bon sens et de la démocratie. Donc ça, c'est une raison aussi fondamentale de dire non. Alors car dire non, c'est pas une catastrophe de dire non. On veut nous effrayer en disant que ça va déliter l'Europe, que ça crée une crise. Dominique Strauss-Kahn a même fait un mensonge énorme en disant à la télévision que ça pouvait remettre en cause la monnaie unique, ce qui est scandaleux. La monnaie unique, nous l'avons, et personne ne songe à l'abandonner. Si nous disons non, il ne se passe rien. C'est regrettable d'ailleurs, parce que nous disons non, on va pas du jour au lendemain avoir des politiques géniales, des politiques sociales. Nous sommes déjà dans une Europe libérale. Directive Bolkestein, c'est maintenant. Elle est parfaitement validée par ce traité, mais elle est parfaitement compatible avec le traité de Nice. Donc nous restons dans le cadre actuel des institutions, des règles, des traités, du traité de Nice, du traité de Maastricht. Bref, nous ne perdons aucun des acquis de l'Union européenne, nous ne perdons aucun des méfaits des politiques libérales en cours. Donc je ne cherche pas à dire, c'est génial de dire non. Simplement, dire non, ça ne détruit rien. On reste comme on est, c'est pas catastrophique que je sache, c'est pas le chaos, ça fonctionne, l'Union européenne, donc on ne perd rien. Tout ce qu'on gagne, c'est que tout est ouvert. C'est-à-dire que, notamment, bien évidemment, on peut remettre à plat un certain nombre de questions, exiger une négociation. Vous savez d'ailleurs, il y a déjà eu un colloque de juristes en Hollande, il y a quelques semaines, qui se sont dit, et ce sont tous des partisans du oui, mais ils se sont dit, ce traité probablement va pas être adopté, parce qu'il y a au moins un ou deux pays importants qui dira non. Et donc le résultat du colloque, c'était, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, eh bien, on va revoir ensemble sur quoi on peut trouver le plus petit dénominateur commun. Et le plus petit dénominateur commun, c'est quoi ? C'est que sur la nouvelle organisation des institutions, des règles de décision, où on améliore un peu l'efficacité, il y a consensus. Donc, ce qu'il y avait de bien dans ce traité, bien que ça n'entraîne pas la vraie démocratie, enfin tout ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce qu'il y avait de bien, c'est qu'il permet simplement que l'Union fonctionne un petit peu mieux, un peu plus efficacement à 25, où ça devient compliqué. À la limite, on l'aura. Parce que on remettra sur le tapis uniquement cela, puisqu'il y a consensus. On proposera la ratification uniquement d'une partie strictement institutionnelle. Et on aura les quelques avancées qu'il peut y avoir là-dedans. On les aura sans avoir tout le reste. Et ça, voyez-vous, ce serait déjà une grande victoire. Même si cela ne changerait pas l'orientation des politiques dans l'immédiat. Parce que ça, ensuite, c'est par le rapport de force que politique qu'on pourra les changer. Mais au moins, il y aurait une grande victoire pour les vrais pro-européens qui veulent une union politique, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'Union, on aurait soumis à ratification un traité qui ne parle que d'institutions et que de politique. Là, ça commencerait à ressembler à une vraie constitution européenne qui ne parle que de l'organisation des institutions et que des règles du jeu politique. Et qui reconnaissent qu'ensuite, dans ce cadre-là, ce nouveau cadre institutionnel des règles du jeu, on va pouvoir éventuellement modifier les traités antérieurs. Alors ça, c'est une révolution. Ce serait une vraie constitution. En tout cas, le seul moyen de laisser une toute petite chance pour qu'on aille vers cette vraie constitution progressiste et surtout simplement vraiment démocratique, c'est de reconnaître que ce traité n'en est pas une, que c'est une forfaiture, que c'est un mensonge et une insulte faite aux citoyens européens, et que même si dire non ne va leur apporter aucun progrès, si au moins ça leur apporte l'exercice de leur liberté, ça n'est pas parce que dire non ne va rien changer à la situation présente que vous n'avez pas le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que soi-disant cela apporte. Même si ça ne change rien à votre situation, quand la seule liberté qui nous reste, c'est la liberté de dire qu'on n'aime pas ce qu'on est en train de nous faire, qu'on n'aime pas les politiques qu'on est en train de nous imposer, eh bien il faut exercer cette liberté. Parce qu'on peut pas dire « oui », hein, ou nous s'abstenir, ne pas aller voter, et puis après gueuler ou râler, parce que ah ben on continue à nous mettre en place des politiques libérales. Il faut bien savoir une chose, c'est que même si on dit non, pendant longtemps on va continuer à mettre et appliquer des politiques libérales dans cette Europe. Parce que pour pouvoir faire que ça change, il va falloir pouvoir aussi changer les conditions et les règles qui sont inscrites dans les traités. Mais moi je vous le demande, comment est-ce qu'on va faire pour obtenir un changement des règles inscrites dans ces traités, si on commence par dire oui à tout aujourd'hui, pour dire après « ah, mais on n'était pas d'accord, c'est absurde, ça n'a aucun sens ». Donc le seul moyen, calmement, sereinement, parce que franchement, ça ne fait aucune révolution, ça ne bouge rien, le seul moyen d'obtenir qu'on ait la possibilité de changer des choses dans la marge de l'Union, c'est de dire simplement, bonnement, ce qu'on pense. Dans l'état actuel, ce traité ne nous apporte rien de bon qui vaille. Il sanctifie tout ce qu'il y a déjà de mauvais dans l'évolution des politiques européennes. Donc ça ne nous va pas. On en veut un autre. C'est simple à dire. Ça ne détruit rien, ça autorise tout.
C'était Des souhaits des hommes en compagnie de Jacques Généreux. Je rappelle qu'il a écrit le manuel critique du parfait européen avec comme sous-titre Les bonnes raisons de dire non à la Constitution. C'est aux éditions du Seuil. C'est remarquable de pédagogie, d'intelligence. C'est le meilleur argumentaire que j'ai pu trouver pour le non au traité constitutionnel. On peut en trouver une version abrégée sur son site http://genereux.fr. La semaine prochaine, nous recevrons Yves Salès de la Fondation Copernic.